Je vais être bref dans ma présentation. Je suis obligé d'être honnête puisque je me retrouve à côté d'une personne qui a des dons chamaniques. J'avais commencé son livre et je l'ai interrompu du fait qu'il m'intéresse. Et j'ai lu les trois premiers précédents donc, et je n'ai pas pu finir la lecture de celui-ci. Toutefois, ça m'a donné des matériaux pour faire une présentation assez rapide. Le grand avantage que l'on a, si je puis dire, avec la présence de Corinne Sambrin, c'est qu'elle est à la fois dedans et dehors. C'est-à-dire qu'elle a une vision qui reste, on peut dire, rationnelle de ce phénomène. Qu'elle vit en même temps comme étant un état modifié de conscience. En clair, ça veut dire qu'on peut avec elle dialoguer sur l'existence du chamanisme comme étant une capacité cognitive, c'est-à-dire une capacité de connaissance qui fait partie de l'être humain. Et ce point de vue est dégagé à ce moment-là des notions un peu de religion, ou à l'inverse, un point de vue psychiatrique qui ferait de cet état une pathologie. Donc avec elle, on peut discuter, ce qui est assez peu fréquent dans ce domaine, sur ce qui se passe vraiment en elle et qui peut se passer en chacun de nous. Juste dernière petite remarque, le chamanisme est étudié depuis longtemps, depuis la fin du 19e siècle, il faut quand même le rappeler pour eux, les pauvres, par les ethnologues qui le découvrent principalement en Amérique du Nord, puis après en Amérique du Sud. C'est un phénomène qui existe dans plusieurs autres sociétés, en Corée, dans certains pays d'Asie, et évidemment en Sibérie. En Sibérie, il a longtemps été mis de côté, on peut le dire comme ça un peu rapidement, enfin mis de côté dans les études au moins, du fait tout simplement de l'idéologie de l'Union soviétique, qu'il considérait comme une pratique de superstition. Et à la faveur de la disparition de ce régime, les études sur le chamanisme ont repris dans les deux sens, à la fois comme un phénomène qu'on étudie en sociologie, en ethnologie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des sociétés en crise, que ça porte le nom de chamanisme ou autre, il y a des prophètes, il y a des indicateurs qui viennent un peu essayer de réguler le désordre et le commencement de chaos qui existe dans ces sociétés en transition brutale. Donc le chamanisme est étudié à ce titre-là aussi. Et puis il y a aussi une étude beaucoup plus directe et pragmatique des effets positifs du chamanisme sur la société mongole en particulier. Vous trouverez des références dans ce domaine de la part d'une amie de Corinne, qui est Laetitia, dont je vais manger le nom.
Laetitia Merli.
Voilà.
Oui.
Et qui a publié des travaux à l'École des hautes études sur ce domaine-là, du renouveau du chamanisme en Mongolie, et puis aussi de ce phénomène de néo-chamanisme qui existe dans nos sociétés européennes, un peu en lien avec la nature, une tentative de retrouver des liens avec les forces de la nature. Bon, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'on peut s'intéresser, je dirais, de l'extérieur au chamanisme comme étant un phénomène à la fois culturel et social. Mais tout ça reste un peu une opération mentale et extérieure. Et donc, ce qui me paraît plus utile, plus intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans le corps et l'esprit, les perceptions de la personne elle-même. Et alors ça, c'est raison vertueuse pour laquelle j'ai lu ces autres livres, dans les tribulations d'une chamane... Non, c'est pas celui-là qu'il faut commencer. C'est le journal d'une apprentie chamane. En plus, je les ai lus dans le désordre.
Mais c'est bien.
Journal d'une apprentie chamane. Donc chronologiquement après c'est mon initiation chez les chamans et enfin les tribulations d'une chamane à Paris qui montre un peu à la fois le déplacement géographique et comment cet état de perception est vécu dans ce contexte qui est le nôtre, qui est plus celui de la Mongolie, mais dans la vie on va dire de tous les jours. Voilà un peu les grandes lignes de ma petite présentation, et ce qui apparaît maintenant, peut-être plus privilégié, dans cet ouvrage que je n'ai pas lu, C'est, y a deux choses. Il y a le récit de la vie de la personne qui a accompagné et initié, véritablement, Corinne Sombrin. Donc, c'est toute sa trajectoire, toute sa vie de l'intérieur, comment cette personne mongole a compris ou a pris conscience qu'elle-même était chamane, par quel signe, par quel processus, comment est-ce qu'elle y a résisté, dans quel contexte. Ça, c'est une partie du livre. Et la deuxième partie du livre est constituée par les analyses qui sont faites par, on va dire, des milieux médicaux, de la psychiatrie traditionnelle, enfin de l'étude du fonctionnement du cerveau. À quoi se dédie peut-être davantage maintenant Corinne Sombrin, et c'est, je finis là-dessus, avec toujours l'idée que ses capacités chamaniques n'ont rien finalement de New Age ou de mystique, mais qu'elles sont des capacités propres au sens anthropologique à l'espèce humaine, et que le chamanisme n'a fait que les théâtraliser, en tout cas les mettre en valeur. Et le but maintenant est de donner à comprendre comment ce processus peut être vécu par tout un chacun. Est-ce que cela convient ?
Non, parfait. J'ai plus rien à dire.
Bon, c'est fini. Est-ce que je dois poser des questions maintenant ? Tu veux pas
plus tôt ? Pourquoi pas, oui.
Je crois que c'est la genèse peut-être sur laquelle tout le monde ici n'est pas au fait. C'est comment cet état est apparu par palier ou brutalement. Comment cet état de... Comment tu as pu savoir que ça relevait du chamanisme ? Est-ce que ça précédait ? Moi, ma question n'est pas très claire. Est-ce que cette perception était antérieure à ta connaissance du chamanisme ou est-ce qu'il a fallu ces circonstances particulière pour que tu comprennes que cette capacité que tu avais était de l'ordre du chamanisme?
Oui, je n'ai jamais pensé que j'avais des capacités, comme beaucoup en Occident. On nous apprend à fonctionner d'une certaine façon et puis à vivre d'une certaine façon, avec certaines règles. Et on ne pense pas qu'on a d'autres capacités, d'autres façons de percevoir le monde, d'avoir un rapport différent à nos corps, à nous, à l'environnement. Et ça, je l'ai vraiment découvert en allant déjà en Amazonie. Et puis après en Mongolie, où le son du tambour en faisant ce reportage pour la BBC a tellement chamboulé mes oreilles d'abord et puis après mon corps, dans la mesure où je me suis mise à sauter dans tous les sens, à pousser des cris de loup, enfin quelque chose qui est absolument terrifiant si ça vous arrive, et puis ça peut très bien vous arriver, je vous rassure. Et donc quand vous sortez de cet état, parce que le chaman a joué du tambour là-bas, ils entrent en transe au son d'un tambour, et le chaman vous dit si le son du tambour t'a fait cet effet là c'est que tu es chaman. Donc le chaman sort de la transe et vous annonce que vous êtes chaman parce que le son du tambour vous avez cet effet absolument étonnant. Alors on commence par pas le croire, évidemment, parce qu'on lui dit mais non, je suis pas chaman. Donc il insiste et vous dit oui, c'est le son, en fait, etc. Ça veut dire que les esprits t'ont désigné, qu'ils ont décidé que tu serais chaman et c'est ce que tu dois devenir. Alors ça commence par faire un peu bizarre, évidemment. Et on pose la question, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Vous voulez que je devienne chamane? Ça veut dire, est-ce que... il me dit, la réponse, c'est que tu dois rester 3 ans avec nous ici, au fin fond de la Mongolie, et qu'on va te transmettre cette connaissance. Alors, il y a beaucoup de gens qui diraient oui, tout de suite. Et moi, j'ai été trouillarde, et puis j'ai dit non, pas du tout, je ne veux pas rester avec vous. Et alors là, mon ami mongol me dit, mais t'es vraiment bête, parce que c'est une connaissance très secrète, elle se transmet que de chaman à chaman. Aujourd'hui, ça a changé. Hein. Mais ça vaut le coup quand même, c'est quand même extraordinaire. Et puis le chaman en rajoute une couche en disant, écoute, si tu refuses de devenir ce que les esprits ont décidé pour toi, la vie que tu as vécue jusqu'à présent, elle était peut-être pas désagréable, elle était peut-être pas très agréable, mais ça va devenir un enfer à côté de ce que c'est maintenant. Bon, alors c'est vrai qu'on a beau être sceptique quant à ces connaissances, on passe quand même pas sous l'échelle où quand il y a un chat noir qui traverse, on se dit on est des humains. voilà comment ça a commencé. Donc, je lui ai dit, j'ai réfléchi un petit peu, puis j'ai quand même accepté. Je lui ai demandé s'il était possible de venir plusieurs mois par an plutôt qu'en permanence pendant 3 ans. Il m'a dit oui. Donc, tu peux venir 3 mois par an, et puis ça va durer le temps que ça durera, jusqu'à ce que tu aies compris et qu'on t'ait transmis cette connaissance. Donc, j'y suis. Lui, c'était un chaman qui s'appelait Balchir, enfin, qui s'appelle toujours Balchir. Et lui, en revanche, comme il était le chaman découvreur, dans la tradition, le chaman découvreur ne peut pas être le chaman initiateur. Donc, je suis repartie avec Nara, et nous sommes allés à la rencontre d'autres chamanes, dont une, qui est Inketuya, dont je parle dans un des livres, a fait une cérémonie, interrogé les esprits, demandé si elle était désignée pour être la personne qui me transmettrait cette connaissance, et pour confirmer si j'avais bien ces dons et si j'étais bien chamane. Voilà, donc elle a fait une cérémonie, et les esprits lui ont dit que oui à toutes les questions. Voilà. Donc je suis restée avec elle, Nara est repartie à Oulan-Bator, et elle a commencé à m'apprendre à traire les rennes. Non, c'est pas ce qu'on attend en tant qu'occidentale. Moi, j'arrivais tous les matins avec mon petit cahier et je disais bon, on commence quand. Enfin, je disais rien parce que je parlais pas mongol. Donc, je montrais le cahier, je faisais comme ça, et elle me disait, elle disait malgache. Alors, j'ai fini par comprendre que malgache, ça voulait dire demain. Mais tous les jours, elle me disait malgache. Donc, à la fin, quand j'étais super forte en traite de renne, coupage du bois à la hache et tout ça, donc elle a fini par sortir une guimbarde et à me dire, écoute, je vais me faire comprendre qu'elle allait m'apprendre à jouer de la guimbarde. Voilà. Et comme je ne comprenais pas le mongol, Nara, et que je faisais ce reportage pour la BBC, j'avais dit à Nara, écoute, je vais enregistrer tout ce qu'elle me dit sur le mini-disque. Et donc, je ne comprenais rien à ce qu'elle me disait. Mais quand je suis arrivée à Oulan-Bator, au bout de... un mois et demi, jusqu'à ce qu'on vienne me chercher, parce que j'étais larguée là au milieu de la steppe, et il fallait attendre que quelqu'un veuille bien me ramener après. Et donc elle enregistrait tout ce qu'elle me disait, tout ce qu'elle voulait m'enseigner pour ce premier contact sur ce mini-disque. Quand je suis rentrée à Oulan-Bator, donc j'ai su qu'elle m'avait enseigné à utiliser la guimbarde, parce que dans leur tradition, c'est la façon d'appeler les esprits en début de cérémonie. Et qu'elle me donnait rendez-vous l'année d'après, tel mois, pour tant de mois. Et donc, elle m'expliquait un petit peu tout ce qu'on avait fait pendant ce mois et demi de travail avec elle. Donc, j'avais en plus des devoirs à faire à Paris. Je devais jouer de la guimbarde le plus souvent possible, mais en ouvrant la fenêtre, parce que si je n'ouvrais pas la fenêtre, les esprits ne pouvaient pas entrer dans la maison. Voilà, donc j'avais mes devoirs de travail. Alors je l'ai fait scrupuleusement parce que l'idée c'était de jouer de la guimbarde pour essayer de développer mon contact avec les esprits. Alors je l'ai fait parce qu'elle m'avait dit de le faire. Et elle m'avait dit, tu verras s'il y a des esprits qui viennent autour de toi et si tu développes ce contact. Évidemment, ça n'a pas marché. Mais peu importe, j'ai fait les exercices. Et j'y suis retournée l'année d'après. Je savais bien jouer de la guimbarde, elle était contente. Et donc là, j'y suis retournée avec Laetitia Merli, l'anthropologue dont Denis a parlé. Parce que ça me faisait un peu peur de replonger dans la transe et de découvrir ce monde de l'intérieur. Et puis elle était intéressée par le sujet, parce qu'en tant qu'anthropologue et non désignée par les esprits, elle n'avait pas accès à cette connaissance. Donc on a fait un deal toutes les deux. Elle me rassurait, et moi je lui disais ce que je ressentais dans cet état-là, et en même temps elle avait accès à l'enseignement, puis en plus elle pouvait traduire parce qu'elle parlait mongol. Donc la deuxième année on est allé avec elle, donc ils m'ont fabriqué un tambour, un costume, et on a commencé les premières cérémonies. Donc la première cérémonie, c'est une fois que, après avoir bien sûr attendu encore pendant 2 mois que le tambour, le costume, tout ça soit prêt. Et c'est vrai que la notion de temps n'est pas la même là-bas, et en même temps, le fait de vivre parmi eux, ça m'a rattachée à la terre, aux éléments, et à une vie toute simple, qui fait comprendre qu'on est juste un élément de tout ça, aussi important et pas plus important que tout le reste. Donc j'ai compris après l'intérêt de ça, de plonger sa raison dans ses racines, parce que la transe provoque des perceptions tellement puissantes parfois, qu'on pourrait de temps en temps se prendre pour beaucoup plus qu'on est. Voilà. Donc j'ai compris après. Bon, bref, quelques mois, deux mois passent et je finis par avoir le tambour, le costume. Et il est question, elle me dit, elle regarde son calendrier lunaire, parce que la position de la Lune dans le ciel est très importante pour faire des cérémonies. Et les débutants ne peuvent pas faire une cérémonie à n'importe quel moment, et surtout pas quand la Lune descend. Donc, elle définit la date de la première cérémonie où j'ai le tambour, le costume. Donc, elle réunit tout le monde, tous les amis, la famille, parce que c'est un moment important. Elle me met le tambour dans les mains et me dit, bah, allez, vas-y, maintenant tu joues et puis tu vas entrer en transe. Alors, j'étais sûre que ça allait pas marcher parce que je comprenais pas comment on pouvait entrer en transe et jouer du tambour en même temps. Avant, j'étais assise dans un coin et j'entendais la cérémonie, le tambour pouvait me faire cet effet, soit. Je disais, ça va, mais si c'est moi qui joue en même temps du tambour, comment ça peut marcher ? Et en même temps, je la voyais faire, mais j'ai dit, bon, elle n'est pas vraiment en transe ou un truc comme ça, vous savez, on essaie toujours de se rassurer. Et j'en discute avec Laetitia et on lui a posé la question. Et la réponse a été, bah, les esprits t'enseigneront. Donc c'est quelque chose de fondamental chez eux, c'est-à-dire que c'est comme si une connaissance perceptive. Ils ne peuvent pas vous expliquer pourquoi les choses arrivent. Alors la réponse est, les esprits t'enseigneront, ça veut dire que quand tu l'auras fait, tu seras capable de comprendre. Et c'est un petit peu comme si je lui demandais, qu'est-ce que c'est que l'eau ? Elle m'aurait dit, bah, t'as qu'à plonger dedans et tu sauras ce que c'est. C'est un peu du même ordre. Et tout cet enseignement se fait comme ça, c'est-à-dire que c'est un enseignement absolument d'ordre perceptif. Et donc, on n'a pas ressenti en soi les effets d'une transe. Il est très difficile d'en parler, comme il est très difficile de décrire à quelqu'un ce qu'est l'eau. Alors arrive ce fameux soir. Donc, je commence à jouer, boum, 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 mais rien ne se passe. Bon. Alors je regarde, je suis bête avec mon tambour, je la regarde et je dis, rien ne se passe. Donc elle arrive derrière moi, elle prend ma main, elle insuffle un rythme beaucoup plus rapide, et là ça a marché. En 2 minutes, j'étais partie en transe, à sauter dans tous les sens, à faire le loup, enfin du grand Corinne, voilà. Alors, quand je suis sortie de cet état, en général la transe s'arrête parce que le chaman tombe dans les pommes. Oui. Oui, ça fait peur. Et donc, c'est toujours pour un chaman, c'est toujours un moment difficile de savoir qu'on va partir en transe, parce qu'on ne sait jamais trop ce qui va se passer pendant la transe, du moins dans les premières transes. Et le retour est toujours assez impressionnant. Donc, boum, tombe dans les pommes. Et le chaman, lui, sait vous ramener. Parce que disent qu'un esprit vient vous posséder dans cet état-là. Donc, pour moi, c'était l'esprit du loup, parce que je me transformais en loup. J'avais l'impression d'avoir une truffe à la place du nez, des pattes à la place des mains. C'est bizarre. Et en même temps, ce qui est très étrange, c'est qu'on a tout à fait la conscience de ce qui se passe, on garde vraiment la mémoire de ce qui se passe, mais on ne peut plus le contrôler. Alors ça c'est ça qui fait peur, quand on le voit après coup, parce qu'au moment où on le vit, on n'a pas peur. Et c'est un des intérêts de ces états modifiés de conscience. Donc la transe se passe, et elle rit, elle me dit, tu vois, j'avais pas besoin de t'expliquer, maintenant tu sais. Et donc ça a duré pendant plusieurs années comme ça, où chaque année je revenais, elle m'enseignait les rituels, mais quant à la transe, elle me disait, tu as des pouvoirs. Alors je disais, mais lesquels, c'est quoi mes pouvoirs, à part celui d'entrer en transe. Elle me disait, mais les esprits t'enseigneront, tu vas les découvrir, tes pouvoirs, parce qu'en fait c'est pas les pouvoirs, ils sont pas en toi, c'est les esprits qui vont venir te posséder, qui te donnent leurs pouvoirs. Donc chaque chaman développe certains pouvoirs, et tout dépend de la relation qu'il va établir avec ses esprits. Donc plus un chaman est performant, plus il va réussir, mais pour ça il faut pratiquer beaucoup, plus il va réussir à entrer en contact avec de nombreux esprits. Donc un chaman débutant, un bébé chaman, comme je l'étais, peut entrer en contact avec un esprit, deux esprits, trois esprits. Et un chaman qui a 20 ans, 25 ans de pratique peut travailler, puisqu'on dit que c'est un travail là-bas, peut travailler avec 30, 35, 40 esprits. Donc qui, chacun, leur donne des capacités différentes. Alors elle me dit, bon, pendant la transe, que fait le chaman ? Vous allez voir un chaman parce que vous avez un problème. Ce problème, systématiquement, le chaman va vous dire, si tu as un problème, c'est que tu as énervé un esprit. Voilà. Alors pourquoi on a énervé un esprit ? Il y a deux raisons fondamentales qui sont le respect et l'intuition. Donc ces deux mots-là sont très très importants dans ces pratiques chamaniques. C'est que en fait, si on ne respecte pas son environnement, si on ne respecte pas la viande qu'on mange, si on tue un animal alors que c'était pas nécessaire, si on le tue avec cruauté, si on va couper un bois qu'on n'a pas besoin de couper, si on fait pas les rituels comme on doit le faire, si on respecte pas les esprits avec lesquels on est en contact, ça va énerver les esprits. Donc, ils vous envoient des problèmes et ils vous disent « Mon vieux, là, ça va pas du tout, il va falloir que tu te reprennes un peu. » Et donc, c'est vrai que cette notion de respect de l'environnement dans lequel on vit, de respect de... Parce qu'eux considèrent qu'on n'est pas tout seul. Hein. En Occident, on est dans notre ego, on est jeu, et puis tout le reste, ça existe à la rigueur, mais si, bon, on s'en occupe pas. Mais là-bas, il y a vraiment une interaction entre chacune de ces actions, c'est-à-dire que si on renverse du lait, si on ne respecte pas la nourriture que les esprits ont mis à notre disposition... Ça énerve. En fait, ça casse une harmonie. Ça crée une disharmonie. Les chamans appellent ça du buzard. C'est une souillure. Donc ce buzard, eh ben on va le porter, et c'est ce buzard qui va provoquer des problèmes. C'est une disharmonie qu'on a créée nous-mêmes parce qu'on n'a pas été respectueux, et qu'on a aussi créée parce qu'on n'a pas respecté son intuition. Et pour les chamans en Mongolie. Le chaman a la capacité d'entrer en contact, en communication avec le monde des esprits grâce à la transe. Mais pour ceux qui n'ont pas la capacité d'entrer en transe, quel est le moyen de communiquer avec les esprits ? Quel est le moyen de recevoir le message des esprits ? Parce que les esprits sont vraiment des guides et des entités qui nous permettent de nous alarmer. Quand il y a quelque chose qui est pas en place, ils nous envoient des signes, ils nous disent ça va pas. Donc ce sont des sortes d'entités protectrices qui font en sorte que l'harmonie entre nous et le monde reste en place. Donc dès que cette harmonie est rompue, les esprits nous envoient ces messages. Donc l'intuition pour les chamans dans ce monde-là, l'intuition est vraiment l'outil qui nous permet de recevoir les messages des esprits. Et qui d'entre nous ne s'est pas un jour dit je savais que je devais pas faire ça, je l'ai fait quand même. Et voilà ce qui m'arrive. Donc c'est celle-là, c'est cette intuition qui nous dit des choses. On sait sans savoir pourquoi on sait, mais on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qui est bon pour nous. Donc ça, c'est ça le message des esprits. C'est ce qu'ils veulent dire par ces messages des esprits. Donc ne pas respecter, ne pas avoir de respect pour son environnement et ne pas respecter son intuition sont les deux facteurs qui font que vous allez avoir des problèmes et que ça va énerver les esprits. Donc quand vous allez voir le chaman, le rôle du chaman, c'est pas tellement de trouver la solution, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce que vous avez fait comme action pour avoir énervé les esprits. Donc au travers de la transe, il va poser la question au monde des esprits et il va demander à l'esprit ou aux esprits quelle est la raison. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour énerver les esprits ? Donc il revient avec une réponse et qui va vous dire pourquoi vous avez hérité de ce buzard. Alors eux ont aussi en plus la notion de transgénéalogie, c'est-à-dire que ce buzard, vous pouvez aussi l'hériter d'un ancêtre. Donc nous, ça fait quoi ? Ça fait 60-70 ans qu'on a la conscience de ça, que ces domaines sont étudiés et enseignés. Mais eux savent très bien qu'on peut porter tous les buzards, toutes les souillures d'une lignée, si elles n'ont pas été nettoyées par un chaman. Alors le rôle du rituel est aussi de nettoyer ce buzard, c'est-à-dire de rétablir l'harmonie qui a été rompue entre le monde des esprits ou l'esprit énervé et l'humain. Alors après, la personne va faire des offrandes pour demander pardon à l'esprit de l'avoir énervé. Le chaman va donner des gris-gris, des protections qui vont le protéger dans son environnement. Et en plus, la personne repart avec l'identification de ce qu'elle a fait qui n'était pas bien et qu'elle va essayer de ne pas renouveler. Mais les personnes ont toujours la notion de « je suis responsable de ce qui m'arrive ». Donc dans ce sens, le rituel n'est pas une guérison, mais il est une réparation d'une harmonie entre le monde des esprits et le monde des humains. Donc, à part ça, il y a tout un tas de rituels qui sont faits pour ça, parce que quand on a par exemple une très grosse peur, on peut aussi perdre son âme. Il y a tout un tas de rituels qui en général sont faits pour, un, nettoyer la souillure, mais en plus apporter ce qu'on appelle le bourran, c'est-à-dire la part de chance de chacun, parce que ça aussi on peut la perdre. Donc le rituel est aussi fait pour rapporter cette part de chance et aussi pour redonner à la personne ce qu'on appelle le mot en mongol, mais en tout cas c'est la part de l'ishmor, voilà, c'est la force vitale. Parce que quand on a un problème, il faut non seulement le résoudre, il faut redonner à la personne une part de chance, la part de chance qu'elle mérite, et en même temps lui redonner la force vitale qui va lui permettre de lutter contre le problème. Donc les rituels tournent autour de ça en général. Alors, on croit souvent en Occident que le chaman guérit. En fait, dans cette configuration-là, le chaman ne fait que réparer cette harmonie. C'est-à-dire qu'on confond souvent le chaman, le guérisseur, et le guérisseur, le chaman, on confond un petit peu tout ça. Mais là-bas, les chamans ne sont pas forcément guérisseurs. Ils font juste ces rituels, ils entrent en contact avec l'esprit, ils ont la réponse, ils l'apportent à la personne, et ils donnent voilà, ce que je vous ai expliqué. Mais il y a des chamans qui, en plus, grâce à la transe, développent des pouvoirs dont je vous parlais, développent des pouvoirs et des capacités qui sont d'ordre des pouvoirs d'un guérisseur. Mais vous avez des guérisseurs qui ne sont pas chamans, des chamans qui ne sont pas guérisseurs, et des chamans qui sont aussi guérisseurs. D'accord ? Alors, les fameux pouvoirs dont parlait Inketuya étaient de cet ordre-là. C'est-à-dire que les esprits qui viennent nous posséder, ben, y a des esprits qui, par exemple, en Mongolie, il y en a un qui, en soufflant 3 fois sur une dent, permet de la guérir. Après, il y a des esprits qui sont cancaniers. C'est-à-dire qu'ils vous rapportent les pensées des autres. Donc cet esprit-là, s'il vous possède, ben il vous donne ce pouvoir. Donc c'est pour vous donner une idée du genre de pouvoir qu'on peut avoir. Et donc les miens, ben je trouvais toujours pas. Et au bout de 4 ans de pratique, je trouvais toujours pas. Et j'avais beau faire bouger mon nez pour savoir si j'arrivais à faire le ménage, ça marchait pas. Bon, alors jusqu'au jour où il a bien fallu 5 ans. Inketuya fait une cérémonie, elle joue du tambour, moi je suis dans un coin assise tranquillement, mais pas tranquillement parce que chaque fois que j'étais pas capable de maîtriser l'entrée et la sortie de la transe à l'époque, et donc chaque fois qu'elle jouait du tambour, ben, y avait un petit vous savez comment elle m'appelle? Chichi Koshkonok, ça veut dire petit trou du cul. Donc ça vaut la peine hein, de passer autant de temps là-bas. Donc un jour, elle m'a dit ça comme ça. Bah, toi, ton nom, c'est petit trou du cul. Voilà, bon, d'accord. Donc le petit trou du cul dans le coin du tipi, bah, dès qu'elle jouait du tambour, il se mettait à faire des gestes, à sauter dans tous les sens, à faire le loup et tout. Mais elle avait l'habitude, quoi. C'était comme un gamin qui s'amuse, un bébé qui s'amuse, on le laisse tranquille. Et donc elle faisait ses cérémonies. Et donc il y avait une personne à côté de moi, une mongole, qui était venue assister à la cérémonie, qui était arrivée. Donc j'entre en transe et je me mets à voir, tout d'un coup, que cette personne, je ne vois plus son corps, mais je vois des tas de choses à l'intérieur de ce que j'ai l'impression qui est son corps. Et je vois j'ai des harmonies, j'ai des visions de choses qui ne sont pas en place. Je vois un petit peu comme des univers qui seraient un peu chiffonnés, qui ne seraient pas en place. Et je me mets à voir tout ça. Et je me mets à faire des sons, des gestes. Je n'avais pas le tambour, des sons, des gestes. Et je commence à lui faire, si on me l'a expliqué après, parce que je ne le voyais pas, je la voyais, j'avais les yeux fermés. Et des trucs sur sa tête. Donc quand je suis sortie de la transe, j'avais la tête avec les cheveux comme ça, parce que j'avais beaucoup travaillé dans ses cheveux. Et donc, je sors de cet état. Inketuya, parce qu'elle aussi, elle était en transe, donc on lui raconte ce qui s'est passé. Et elle me dit, ben voilà, ça y est, tu as commencé à découvrir ses dons. Donc c'est peut-être de faire un shampoing aux gens, avec les cheveux. Et je me dis, ah oui, effectivement, là, ça paraît intéressant, parce que j'avais l'impression, en faisant ces gestes et ces sons, que ça réharmonisait ce que je voyais à l'intérieur d'elle, et que ça avait une utilité. Donc, Inketuya a dit, bon, ben maintenant, les cérémonies qu'on va faire, on va te donner le tambour, et puis après, on va t'enlever le tambour, on va te mettre une personne devant pour voir ce que tu lui fais, et puis on va te redonner le tambour, voilà. Donc, on fait une espèce de mix, de mixture du rituel chamanique. Et en même temps, elle s'est adaptée à ce qu'elle voyait qui se développait chez moi. Et c'est pour ça qu'elle disait toujours, tu vas développer ton propre chamanisme. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas, à part me donner les outils, enseigner des rituels, elle pouvait pas dire, et ce qui est vrai pour tout le monde, elle peut pas dire comment on va utiliser ces outils et ce qu'ils vont révéler en nous, puisque ça, c'est vraiment propre à nous. Alors, je vais abréger et je vais dire que les années d'après ont été dédiées à essayer de développer ses capacités et de voir où ça emmenait. Et je voyais bien que cet état était très intéressant dans la mesure où c'est comme si j'avais tout à coup une vision augmentée de la réalité. C'est-à-dire ce que j'avais dans un état normal, c'est comme si mon cerveau, fonctionnant d'une certaine façon, me donnait accès à des informations. Mais si j'étais en transe, j'avais accès à d'autres informations qui me semblaient très intéressantes. Donc à partir de là, je me suis dit, ou je suis folle, ou on essaie d'expliquer tout ça. Et donc je suis allée rencontrer des scientifiques, parce que j'avais envie de dire à ces gens, il y a quelque chose d'intéressant là. C'est peut-être pas si bête leur histoire. Parce que si mon cerveau peut faire ça, celui des autres aussi, il n'y a pas de raison. Je veux dire, c'est qu'on a tous des capacités comme ça. On ne nous apprend pas à les développer, mais il y a certainement un truc intéressant à démontrer. Donc le premier scientifique que je suis allée rencontrer, il m'a dit « J'ai un psychiatre qui est très bien. Voilà sa carte. Et peut-être que vous devriez consulter. » Bon, d'accord, merci monsieur. Et puis j'ai finalement rencontré Pierre Etévenon, dont je parle dans ce livre, parce que dans ce livre, je donne les premiers résultats de la suite que je vais vous raconter, donc d'un protocole de recherche en neurosciences. Et donc je rencontre le professeur Etévenon, le docteur Pierre Etévenon, qui a été un des premiers dans les années 70 à dire « la méditation modifie le comportement du cerveau, moi j'en suis sûre. » Alors évidemment, on lui a ri au nez aussi à l'époque, mais l'évolution de l'imagerie cérébrale a montré qu'il avait raison. Et donc il a été un des pionniers de l'électroencéphalographie assistée par ordinateur. Mais à l'époque, il a dû partir aux États-Unis parce que tout le monde rigolait de ce qu'il pouvait imaginer et dire. Donc il est allé étudier à Princeton sur le LSD, toutes sortes de psychotropes et de choses comme ça. Donc les états modifiés de conscience, il connaissait bien. Et quand je suis arrivée, il m'a dit « Oui, c'est quelque chose que j'ai étudié, que je connais. Je connais l'intérêt de ces substances, même si elles sont dangereuses à certains titres. Je connais l'intérêt de ces substances et ça m'intéresse votre histoire. Moi, je voudrais bien voir. » Donc, je lui fais une démonstration avec le tambour. Elle me dit « Ah oui, effectivement, c'est intéressant. » Et lui ne me donne pas la carte de psychiatre. Il me dit « Écoutez, le problème, c'est que ce serait intéressant de faire un EEG de votre cerveau, un électroencéphalogramme de votre cerveau, mais avec un tambour qui fait 1 mètre de diamètre, ça ne va pas être possible dans un laboratoire de recherche. On ne va jamais vous laisser entrer. Donc, si vous voulez qu'on continue ce travail, vous passez du tambour, vous essayez de provoquer la transe par la seule volonté, et deux, vous vous calmez un peu parce que on va vous mettre des électrodes sur la tête reliées à un ordinateur, vous allez tout nous casser aussi, là c'est pas possible. Donc je ne savais pas quand il m'a dit ça si c'était possible, parce qu'aucun chaman en Mongolie se passe du tambour pour, puis ça les intéresse pas, quand je leur ai raconté ça après ça les fait rire, hein, c'est ce que je raconte là-dedans aussi dans le livre, dans les esprits de la steppe. Et donc je me suis entraînée, je me suis assise par terre chez moi et je savais physiquement ce que provoquait le son du tambour sur moi, ça provoquait un tremblement comme ça ressemble peut-être à un début de crise d'épilepsie, un truc comme ça quoi, en trahissant évidemment l'explication, hein. Et j'ai dit peut-être que si je reproduis ce tremblement, comme j'avais déjà beaucoup pratiqué la transe, si je reproduis ce tremblement, peut-être que ça va provoquer la transe. Et j'ai fini par y arriver et un jour c'est arrivé, la transe est arrivée juste par ça. Donc une fois que j'ai réussi à faire ça, il a fallu que j'apprenne à la maîtriser, à faire en sorte que ce soit pas trop violent. Et j'ai réalisé qu'il y avait un moyen de contrôle justement de l'intensité de la transe, et non seulement de l'intensité de la transe, mais un, de l'entrée en transe, et deux, de la sortie en transe, parce qu'il fallait que je le maîtrise ça aussi. Pour qu'on me dise, on fait l'EEG, entrez en transe, on a fini l'EEG, sortez de la transe, enfin tout ça, quoi, parce que, la transe peut durer 4-5 heures, hein, ça peut, donc c'était pas question de faire attendre les chercheurs aussi longtemps. Donc quand j'ai réussi à faire tout ça, je suis allée le revoir et je lui ai dit, je crois que je suis au point. Donc il m'a fait faire une autre démonstration, sans tambour, sans rien, et il m'a dit, Rien à dire. Tampon validé, souris de laboratoire. Je vais vous mettre en contact. Donc, passer de loup à souris de laboratoire, quand même. Et c'est un grand voyage. Et donc, je vais vous mettre en contact avec des chercheurs, des collègues avec qui j'ai travaillé. Alors, je ne sais pas lesquels encore. On peut dire qu'ils ne sont, ils se sont pas bousculés. Mais il a fini par trouver un chercheur au Canada, à Edmonton, qui était professeur de psychiatrie, qui dirigeait le service de psychiatrie adulte de l'Alberta Hospital à Edmonton, et qui dirigeait aussi le laboratoire de recherche EEG, dans lequel il faisait les évaluations sur les grands criminels. Voilà. Alors je me suis retrouvée dans un bâtiment de haute sécurité avec des malabars qui contrôlaient l'entrée, où j'ai dû laisser un papier d'identité, empreinte et tout, parce que c'est un milieu dangereux de par la présence de ces grands criminels. Et après faire une démonstration devant une 15-20 psychiatres et neuropsychiatres. Donc là encore, je me suis retrouvée dans une pièce avec ces gens-là qui regardaient. J'ai fait une démonstration. Et quand j'ai arrêté la transe, ils avaient un peu la mâchoire comme ça. Et à tel point que j'aurais dit, je suis là, c'est fini. C'est... Voilà. Donc, alors il y en a un qui a une voix s'est élevée et a dit, on dirait un syndrome de personnalité multiple. Ouais. Un autre dit, même moi, je dirais plutôt une méningite limbique. Et un autre, ce serait plutôt un autre truc dont j'ai oublié le trait, projeté en cortical, enfin un terme absolument très poétique. Et ils s'approchent de moi, je leur dis, c'est grave alors. Et puis ils me disent, écoutez, on vous donne notre carte de visite, on aimerait vraiment connaître la suite de l'histoire. Moi aussi, figurez-vous, j'aimerais vraiment connaître la suite de l'histoire. Voilà, donc à partir de là, ils m'ont fait faire une batterie de tests. J'ai répondu à des questionnaires, tests psychiatriques, psychologiques, pour savoir si tout était normal. Et puis après, on a fait un EEG, donc ils ont mis les électrodes sur ma tête, ils ont enregistré mon cerveau sans que je fasse rien, ça c'était facile. Et après, ils m'ont demandé de faire une transe. Donc une transe légère, évidemment, à tel point qu'on se demandait si ça allait être suffisant pour marquer les ordinateurs. Et voilà. Donc une fois tout ça terminé, ils ne voient pas tout de suite le résultat. Bien sûr, il faut analyser ces résultats. Et 6 mois après, ils m'envoient un mail en me disant « Parfait, votre cerveau est tout à fait sain. » Donc j'étais déjà rassurée. Et il me dit, mais le problème, c'est que pendant la transe, il faut arrêter ça tout de suite. Il faut arrêter ça tout de suite. Je lui dis, pourquoi il faut arrêter ça tout de suite? Il me dit, écoutez, j'ai comparé vos tracés pendant la transe, donc les tracés EEG, à des groupes contrôles de ces malades, lui, qui souffrent de schizophrénie, donc c'est gravement schizophrène, de troubles maniaques, c'est gravement maniaque, et de troubles de dépressifs, c'est gravement dépressif. Donc vous avez tout à la fois dans cet état-là. Et il me dit, pour moi, c'est vraiment une psycho-généralisée. C'est dangereux, votre truc. Ah. Et il me dit, mais ce qui est extraordinaire, et ce qu'on on pensait impossible pour le cerveau humain, donc ce qui est là, qui est de l'ordre d'une découverte sur la connaissance du cerveau, c'est qu'on ne pensait pas qu'un cerveau sain puisse aller dans des zones aussi pathologiques et en revenir juste par la volonté, comme ça. Voilà, donc la petite souris avait ouvert un domaine de recherche du coup qui a emballé certains chercheurs. Lui reste sur la position, pour moi c'est dangereux, donc rien ne me dit que ton cerveau va pas rester bloqué là-dedans. Alors là je dis, écoutez, il suffit d'aller voir chez les chamans, eux dans leur tradition, ils ont 7000 ans de pratique, tous les chamans ne sont pas restés bloqués, ils reviennent. Mais les chamans vous disent que les premières transes, il y a un aspect dangereux dans les premières transes. C'est-à-dire que s'il peut y avoir un problème, et c'est ce qui s'était passé pour moi, c'est-à-dire que le chaman était en colère parce qu'il m'avait dit « j'ai mis 2 heures à te ramener ». Ton âme était partie, ils ont leur explication à eux, leur interprétation. Il me dit « ton âme était partie, j'arrivais pas à la faire revenir ». Mais il est arrivé. Donc eux disent les dangers d'une transe, effectivement ils l'ont repéré, c'est dans les premières transes. Mais, ce qui est intéressant, c'est que si le chaman est compétent, il a toujours ramené la personne qui était partie dans cet état. Donc ça, c'est un facteur intéressant aussi pour les chercheurs. Ça veut dire que les techniques chamaniques seraient alors... Si la transe est un état de psychogénéralisé, les chamans ont alors la capacité de ramener quelqu'un qui est bloqué dans une psychogénéralisée. Donc la question qui s'est posée aussi, c'est est-ce que ces techniques ne seraient pas une réponse et un moyen de ramener quelqu'un qui souffre de schizophrénie ou d'une dépression ou de troubles maniaco-dépressifs et qui restait bloqué dans la pathologie, donc qui n'a pas la capacité d'en revenir. Est-ce que ces techniques ne pourraient pas être utilisées pour ramener des gens qui souffrent de ces pathologies? Donc gros point d'interrogation, hein. C'est vraiment, voilà, ce sont des hypothèses. Mais en tout cas, qu'on prend la peine maintenant de chercher. Donc après, il y a une équipe à Paris, et la Salpêtrière du CNRS, qui a accepté de faire un enregistrement sur mon cerveau aussi, pour essayer de confirmer les résultats de Edmonton. Donc je viens d'en avoir les résultats qui confirment ces choses-là. Et qui dit aussi que dans les états de repos, donc entre les, parce que là j'ai dû faire plusieurs transes au CNRS, une qui était similaire à celle de Edmonton et une qui était davantage poussée pour voir si le fait de pousser la transe augmentait l'importance, enfin accentuait les résultats, les phénomènes observés sur les tracés EEG. Et donc entre chaque transe, ils ont fait aussi des EEG du cerveau qui montraient que c'était un état d'éveil en fait, comme on retrouve chez les grands méditants. Donc était un état similaire. En revanche, pendant la transe, c'est pas du tout pareil. Et Pierre Etévenon m'a beaucoup vexé le jour où il m'a dit oh bah tiens, tes tracés ressemblent à ceux d'un lapin sous LSD. Voilà, donc entre trou du cul et la pince ou LSD, vous voyez que c'est pas facile la vie de souris de laboratoire. Voilà.
Est-ce que tu peux dire quelque chose à propos des représentations que tu vois, que tu perçois, que tu vis pendant la transe? Alors, enfin, ma petite question, juste, c'est ma petite interrogation personnelle, c'est de savoir si elles sont celles qui sont au CNRS, elles sont les mêmes potentiellement que celles qui sont vécues quand tu es en Mongolie?
Elles sont du même ordre. C'est-à-dire que elles ont la même forme, mais les visions sont différentes parce qu'on s'est rendu compte que suivant l'environnement, les visions changeaient. Donc les Mongols vous disent que, ben, en fait, les esprits ne sont pas les mêmes partout. Ils n'ont pas la même représentation, la même forme. Donc ils changent. Alors, la forme, et c'est souvent sur fond noir. Alors, les chamans vous disent que le voyage chamanique se fait dans ce qu'ils appellent le monde noir. C'est le monde dans lequel vont les âmes après la mort. Et c'est le monde dans lequel sont les esprits. Pour eux, il y a le monde noir et le monde éclairé. Donc, le monde éclairé, celui des vivants, et le monde noir, après, on va dedans quand on est mort. Donc, eux disent, la première fois où je me suis retrouvée dans ce monde, j'ai eu très très peur, parce que ça fait peur, c'est un grand vide, froid, infini, enfin même pas froid, c'est rien, quoi. C'est un néant. Et les chamans vous disent que donc souvent les visions qu'on a, c'est sur du noir, c'est du blanc sur fond noir, mais quelquefois il y a des couleurs aussi, quelquefois ce sont des formes géométriques, quelquefois ce sont des visages, quelquefois ça ressemble aux gargouilles qu'on voit sur les églises, vous savez, avec ces visages, comme ça. Donc là les chamans vous disent que ce sont des entités néfastes, celles-là. Et il se trouve que quand on voit ça, on se met à les chasser, on se met à faire des... Bon, quand on a le tambour, on joue très très fort pour chasser ces trucs-là. Donc c'est un véritable combat pendant la transe, et on parle d'un véritable combat. Le chaman se bat contre ces entités, vraiment. C'est pour ça que c'est jamais agréable d'être chaman, et c'est toujours un fardeau, quelque chose qui est... Parce que c'est un... Et souvent, pour négocier avec un esprit, le chaman donne sa vie en échange pour avoir une réponse ou pour apporter une réponse à une personne qui est très malade. Le chaman offre sa vie, donc ce rituel-là est particulièrement dangereux. Mais les visions, pour répondre à ta question, les visions sont du même ordre, mais elles changent en fonction de l'environnement qu'on a.
On va conclure et te remercier.
Ben, merci à vous, vraiment.